Donc vous pouvez prendre vos épées dans Romains, voilà, Romains 1, et nous allons lire donc les versets 18 à 21. Romains 1, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors le contexte de ce passage que nous venons de lire ensemble est donc une lettre que Paul a adressée aux chrétiens de l'église de Rome de son époque. Et dans laquelle il a comme objectif, donc dans cette lettre, de leur démontrer, de leur expliquer que le salut de Dieu ne s'obtient que par la foi, et par la foi seulement, précisant même que le juste vivra par la foi. Parallèlement à cela, Paul déclare que la colère de Dieu est pour tous ceux et celles qui retiennent la vérité captive ou qui refusent de reconnaître Dieu pour ce qu'il est, affirmant que ce qui est manifeste de Dieu, Dieu ne leur a fait connaître. Alors le raisonnement de l'auteur inspiré de ce texte est clair. La création suppose un créateur, comme un dessin suppose un dessinateur. L'expression « ils sont donc inexcusables » parle à la fois des païens ou des simples religieux à qui Dieu se révèle au travers de cette création, mais qui la refuse comme étant révélation de Dieu. Et donc, en conséquence, le fait de ne pas reconnaître Dieu dans ses œuvres les rend donc inexcusables, et leur cœur est plongé dans les ténèbres. Quand l'homme rejette obstinément la lumière, Dieu finit par la lui refuser. Ceux qui ne veulent pas voir finissent par perdre la capacité de voir Dieu la leur refusant. Quelle responsabilité de l'homme dans ces textes? Quelle responsabilité? Alors, sur la base de ce texte, on pourrait évoquer un certain nombre de volets, de sujets, mais ce qui nous occupera donc ce matin, c'est la création comme principe de révélation et d'invitation de Dieu. Alors, la création de Dieu, quelques questions, est-elle suffisante pour le révéler? A priori, oui, d'après ce texte de Romains. La création de Dieu est-elle le seul moyen que Dieu utilise pour se révéler aux hommes? A priori, non. Il y a sa parole, il y a ses témoins, et l'évangile de Jean qui précise que si personne n'a jamais vu Dieu, Christ, le Fils unique, est celui qui l'a fait connaître. Autre question. Pour se révéler à l'homme, Dieu aurait-il pu utiliser des moyens qui nous auraient mieux satisfaits? Sans doute. Mais Dieu n'aurait pas alors atteint son objectif nous concernant. Et je rappelle le thème de cet épître, la foi comme seule base de salut. Ce que Dieu veut de tout homme, ce n'est pas que nous puissions l'expliquer par des démonstrations scientifiques. Je ne sais pas, il y a peut-être des scientifiques, je sais qu'il y a au moins des mathématiciens chez nous, hein. Des démonstrations scientifiques ou intellectuelles. Mais ce que Dieu veut, c'est tout simplement que nous le reconnaissions comme créateur, souverain, et cela au moyen de la foi. C'est-à-dire, c'est-à-dire de croire sur la base de ce qu'il accepte de nous dévoiler de sa personne et rien de plus. Oui, ce qui plaît à Dieu, c'est que nous le découvrions par les moyens qu'il a choisi de mettre à notre portée. Alors j'ai deux citations. Alors l'une d'un botaniste célèbre et médecin qui était médecin du roi de Suède. Voici ce qu'il disait dans sa citation. L'Éternel Dieu se laisse entrevoir dans toutes les choses créées. Quelle force, quelle sagesse, quelle inexplicable perfection. Et puis une citation peut-être un petit peu plus connue d'Alfred Kessler, qui est prix de Nobel physique et du XXe siècle, et qui disait « L'idée que le monde, l'univers, s'est créé tout seul me semble absurde. Je ne conçois le monde qu'avec un créateur, donc un Dieu. » Alors dans mes recherches pour travailler un petit peu ce thème, j'ai parcouru une partie de l'approche d'un commentateur chrétien. Il nous rapporte que principalement depuis les années 1980, c'est-à-dire que c'est pas si loin de nous quand même, hein, plusieurs scientifiques ont cherché à élucider le rapport qu'il y a entre la foi et le cerveau humain. C'est un domaine de recherche ayant un nom nouveau, la neurothéologie. Vous accrochez, hein? Et donc, depuis 2001, le mouvement dit des nouveaux athées se manifeste d'une manière assez agressive. Et avec la neurothéologie, ces athées aimeraient bien prouver que Dieu ne serait rien d'autre qu'une illusion du cerveau. À la question « Qui est Dieu ?», notre commentateur ajoute une alternative. Dieu, réalité ou projection? Dieu serait-il une projection de notre cerveau? Alors, le cerveau, c'est quoi? Alors, on va voir quelques images, belles images. Alors, le cerveau humain, nous est-il dit, je tiens ça bien sûr de scientifique que je ne suis pas, hein, chacun le sait, hein. Le cerveau humain est la plus complexe des structures connues de l'univers, la plus complexe. Le cerveau humain dépasse à la fois en complexité, mais aussi en performance, tous les super ordinateurs que les plus grandes intelligences humaines ont pu créer. On a déjà une idée, hein, de ce que peuvent faire des ordinateurs. Et bien, le cerveau humain dépasse, et de loin, cela. Alors, le cerveau humain est composé d'environ 100 milliards de neurones. Ça fait beaucoup de zéros, ça, hein? 100 milliards de neurones, c'est-à-dire de cellules nerveuses. Et chaque neurone possède lui-même jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Hein? Ce sont donc des synapses. Et toujours selon ces scientifiques, donc, l'homme possède à peu près 10 puissance 15 synapses. C'est 15 zéros après le... C'est ça, hein? Donc à 15 zéros, on en est au billard. Alors, c'est pas le billard, hein? On connaît le million, on connaît le milliard, mais là, on en est au billard. L'homme possède à peu près un billard de synapses, dont de liaisons entre les neurones. Et la longueur de ces liaisons est d'environ 1,5 million de kilomètres. Alors, pour finir un peu là, du côté de la performance de calcul. Ah. Voilà. Du côté de la performance de calcul, il nous est précisé que le cerveau peut réaliser jusqu'à 10 puissance 18. 18 zéros. Hein? Un million de milliards. Enfin, c'est astronomique. Et que ces impulsions-là, c'est par seconde. 10 puissance 18 d'impulsions par seconde de notre cerveau. Alors, sans atteindre les performances du cerveau, on sait que les ordinateurs, on les a vus un peu, en tout cas dans les entreprises, mais chacun le sait, hein, pour pouvoir fonctionner normalement, eh bien, ils sont installés dans des pièces climatisées, réfrigérées. Pourquoi ? Parce que l'énergie qu'ils utilisent pour pouvoir fonctionner est tellement grande qu'ils s'échaufferaient et se détruiraient par eux-mêmes. Alors on les installe dans des pièces vraiment réfrigérées. Et le cerveau, lui, notre cerveau humain, lui, il est capable donc de réaliser la performance de calcul que l'on vient de voir ou de survoler avec à peine une consommation de 20 watts. Alors, je n'ai pas trouvé à la maison une ampoule de 20 watts. Les Christians doivent avoir une idée de ce que c'est, hein. Ben, si on éteignait et que j'allumais et que j'éclairais... Pardon ? Pour éclairer votre frigo. Voilà. Donc, notre cerveau, lui, n'a pas besoin d'avoir une pièce réfrigérée. Hein ? On consomme pour tout ce travail, toute cette performance, à peine la consommation de 20 watts. Et tout cela se passe tous les jours, dans notre tête, normalement, sans que nous nous en rendions compte, sans même que cela nous fatigue. Alors, des scientifiques de ce bord, dont j'en reviens donc au bord de la neurothéologie, ils ont alors fait des tests. Ils ont fait des tests à l'aide de stimulateurs magnétiques, là, dans le cerveau de certaines personnes testées. Et ce qui est rapporté, c'est que sur 80% des personnes qui ont été ainsi testées avec un stimulateur magnétique, elles ont dit qu'elles ont ressenti un état de vol plané, comme la présence d'un ange, ou bien une sorte de rencontre avec Dieu. Et du fait que ces stimulations étaient dues à ces stimulations magnétiques, la conclusion donc de ces scientifiques de la neurothéologie, la conclusion qu'ils ont apportée, est de dire que Dieu serait donc une illusion du cerveau. Au hasard, il continue, au hasard de l'évolution, il se serait formé dans les lobes latéraux de nos cerveaux une région déterminée qui pourrait procurer le sentiment de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, Dieu n'est pas réel, il est simplement une illusion. Alors, 20 ans plus tard, d'autres biologistes ont réalisé ces mêmes tests. et dans une autre zone du cerveau, et la personne qui a été testée, volontaire, elle a dit qu'elle a à ce moment-là ressenti comme une odeur de toast grillé. Alors, chacun sait que le toast grillé n'existe pas, que c'est une illusion du cerveau. Des hallucinations peuvent faire apparaître, ou peuvent apparaître en tout cas avec l'alcool, avec les drogues, avec le manque d'oxygène, avec même l'épuisement, souvent l'épuisement. Hein. Par exemple, ce que l'on appelle le mirage, vous voyez, cette perception de l'eau dans le désert ou sur une surface comme le bitume bien chauffé par le soleil. Mais cela ne signifie pas que ces choses imaginées dans telle ou telle situation n'existent pas. Alors c'est quoi le cerveau? Un outil de projection? De diffusion de choses non réelles? Ou bien est-il, avec les éléments survolés que nous venons de voir à l'écran, la manifestation implacable de la réalité d'une puissance créatrice supérieure? Le cerveau est l'œuvre d'un créateur qui dépasse la pensée et l'imagination de l'homme. Chacun, sans exception, ce matin, pourrait pouvoir dire avec le psalmiste: Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et de conclure: et mon âme le reconnaît bien. Le refus d'une telle réalité de l'homme démontre l'emprise de l'incrédulité, démontre une volonté de refuser l'évidence, de refuser l'évidente réalité de Dieu. Alors voici ce qu'un certain Richard Levantin, qui est biologiste, généticien, contemporain et professeur à l'université de Harvard, disait. Donc je le cite, restez assis, ça vaut mieux. Notre disposition à accepter des affirmations scientifiques à l'encontre de notre bon sens est la clé de la compréhension du véritable combat entre la science et le surnaturel. Et de continuer de dire, nous choisissons le camp de la science. Malgré les absurdités manifestes de quelques-unes de ces théories, parce que nous avons un engagement prioritaire envers le matérialisme. Je vous avais dit qu'il valait mieux rester assis. Mais quel est l'avis que donne la Bible sur l'athéisme, cette volonté à nier Dieu? Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ou dans Romains 1, la suite de notre texte, se prétendant sages, ils sont devenus fous. Alors, une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas souhaité se révéler aux hommes en tant que forme visible nous est expliquée dans sa parole. Pourquoi un Dieu non visible? Alors, des raisons nous en sont données dans le livre donc du Deutéronome. Et vous prendrez bien garde à vos âmes, car vous n'avez vu aucune forme au jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelques images taillées, la forme d'une image quelconque, la figure d'un mâle ou d'une femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure de quelque oiseau qui vole dans les cieux, la figure de quelque reptile du sol, la figure de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, et de peur que tu ne lèves tes yeux vers les cieux et que tu ne vois le soleil et la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et que tu te laisses séduire et ne te prosternes devant eux. Et ne les servent. Dieu n'a pas souhaité se révéler sous quelque forme que ce soit, mais il a choisi de le faire au travers de sa création, œuvre d'une puissance
et manifestation de sagesse qui impacte du coup obligatoirement la conscience et aussi la responsabilité de l'homme. Et cette révélation de Dieu, c'est un cadeau pour les hommes. Parce qu'elle est d'office accessible à tous et dans tous les temps. Personne sur la terre n'est privé de cette révélation qui est d'une telle puissance et aussi d'une telle sagesse qu'elle manifeste la divinité de son Créateur. Alors, depuis les temps anciens et jusqu'à nos jours, personne n'est privé de cette révélation de Dieu dans la création. Personne. Elle est accessible à tous. Elle permet, selon ces textes, à elle seule de réaliser que Dieu existe et qu'il est tout-puissant. Psaume 19, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe l'autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. On pourrait dire que ce n'est pas une illusion du cerveau. Hein. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. » Le simple constat que nous pouvons faire de l'infiniment petit et de l'infiniment grand devrait nous mettre un peu la puce à l'oreille. Hein ? Le monde dans lequel nous vivons est l'œuvre d'un être qui nous dépasse. La création porte en elle-même la marque d'un être qui ne peut être qu'infiniment puissant, infiniment sage et rempli de sollicitude envers nous. La création, puissance et sagesse de Dieu prouve qu'un être supérieur et divin existe, et le refus de l'homme de considérer la création comme œuvre de Dieu porte l'homme à nier Dieu et à considérer qu'il est entre autres qu'une illusion du cerveau. Alors l'épître aux Éphésiens, parlant de l'homme sans Dieu, sans foi, dit au chapitre 4, au verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu et d'en donner la raison à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Dans le livre des Actes, Paul aussi rappelle en même temps qu'il enseigne donc aux habitants d'Athènes que la volonté de Dieu et que tous les hommes le cherchent et s'efforcent de le trouver en tâtonnant. C'est donc que Dieu, en plus d'avoir mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, a également mis devant ses yeux les moyens de le découvrir. Alors l'acceptation de la création comme révélateur de l'existence de Dieu porte l'homme à vouloir aller plus loin de cette découverte de Dieu et à désirer le connaître, cette fois-ci, comme un père. La reconnaissance de la puissance de la divinité de Dieu dans la création porte l'homme à reconnaître sa situation de dépendance de Dieu et donc d'un besoin de relation, d'un besoin de réconciliation. C'est Job qui disait au chapitre 42 de son livre « Je reconnais que tu peux tout. J'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et de conclure, « C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Dans notre texte de référence de ce matin, l'avertissement sévère que nous y trouvons peut nous surprendre. Et pourtant, c'est un avertissement qui demeure pour les hommes et les femmes de notre génération. les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. En clair, il a imprimé des marques de sa gloire dans toutes ses œuvres. De quelque côté que l'on puisse se tourner, que nous regardions, nous sommes en mesure, l'homme est en mesure d'apercevoir une étincelle de la gloire de Dieu. Notre vie, déjà, notre corps même, on a évoqué tout à l'heure notre cerveau, sont l'empreinte de sa puissance et de sa sagesse. Alors, dans sa grande bonté, Dieu a permis à Job, entre autres, de contempler son œuvre créatrice, l'œuvre créatrice de Dieu, avec le regard qu'il faut. Alors, j'ai extrait, vous pourrez prendre, si vous le souhaitez, dans Job, chapitre 38 et un peu 39, j'ai extrait quelques, pour ne pas lire tout, hein, et je vous le lis. Donc, en ce qui concerne, en tout cas, la vision que l'Éternel donne à Job, en ce qui concerne d'abord l'univers et la flore, voilà ce qu'il dit. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Où est le chemin qui conduit à la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Parle, si tu sais toutes ces choses. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître la rosée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Ça, c'est pour l'univers et la flore. Alors, quelques-uns sur la faune maintenant. Chasses-tu la proie pour la lionne? Qui prépare au corbeau sa pâture? Et là, je voudrais faire une parenthèse. Je regardais hier à la télévision, ça m'arrive de... J'essaie en tout cas de regarder tout ce qui concerne un peu la nature, la faune et la flore. Ça m'intéresse, ça me repose même. Et le sujet, c'était un homme qui s'intéresse donc particulièrement aux loups. Et donc, ce qu'il nous est montré, là, je pense qu'il survolait un petit peu les loups avec un genre peut-être du LM, oui, avec un appareil de photo ou une caméra assez puissante. Et donc, on voit à un moment donné ces loups qui sont en train d'essayer, affamés, une meute, d'essayer d'attraper les petits des bisons au cœur des bisons mâles et femelles. Et on voit toute l'énergie qu'ils mettent à pouvoir saisir ces petits bisons, mais on voit également la capacité des mères, des femelles bisons à défendre leurs petits. Et puis, à un moment donné, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, les bisons s'en sortent, les petits aussi, et les loups abandonnent. Mais le lendemain, les loups retrouvent la trace des bisons. Et là, la chasse recommence. Et puis, à un moment donné, cet homme qui fait ce reportage et qui s'intéresse aux loups voit le chef de la meute, le leader, s'en aller, dépasser tout le monde, dépasser tous les bisons et partir loin devant. Et donc la personne se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc il s'élève donc avec son appareil, il montre une grande image très loin, un plan très large, et on voit le loup tout petit qui court, qui court, qui court, et donc et tous les autres loups le suivent, et il se dit, mais où va-t-il? Il laisse cette nourriture potentielle à portée de dents. Et puis au bout de plusieurs centaines de mètres, on voit le loup seul en tête qui arrive et qu'il y a là deux bisons, deux énormes bisons. Donc un jeune mâle assez costaud et puis un plus adulte qui sont là. Et donc le loup s'approche, juste à quelques mètres, il en fait le tour, les bisons réagissent un peu. Et puis le loup reste là à côté, il boit, il s'abreuve. Et les autres arrivent, bien sûr, dans ce temps-là. Et bien tout le monde, tous les loups aussi se mettent à boire et sont là, 2-3 mètres des bisons, et puis rien ne se passe. Et la fin de journée se passe comme ça. Et le lendemain, le bison le plus âgé est mort. Et les loups se nourrissent. Les loups avaient senti, savaient que la fin d'un des bisons était proche. C'est extraordinaire, et c'est avec ce type, en tout cas, de réalité que la parole de Dieu, chasses-tu la proie pour la lionne? Donnes-tu sa pâture au corbeau? Ça prend tout son sens. Et ce ne serait donc pas tordre la parole du livre de Job en disant « Qui donne la proie au loup ?» Si on continue dans Job, il nous est dit par exemple que l'aile de l'autruche se déploie joyeuse. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Elle oublie que les pieds peuvent les terrasser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Car Dieu lui a refusé la sagesse et il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Et pour finir, est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Est-ce par toi ou par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Et l'Éternel conclure, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Alors les nombreux témoignages de la sagesse de Dieu dans sa puissance ne devraient-ils pas nous éblouir? Il est évident en effet que pour soutenir une telle machine, une telle masse, j'entends l'univers, j'entends la terre, tout ce qu'elle renferme, une grande puissance alliée à une grande sagesse sont indispensables. Alors en termes de conclusion, le livre des Actes, Paul dit « Puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre précieuse, à une œuvre façonnée par l'art et à l'imagination de l'homme. » On ne doit pas penser que Dieu est quelque part l'imagination de l'homme. Hein? Le Dieu de la Bible n'est pas une projection de l'homme. Dieu n'est pas une illusion du cerveau de l'homme. Dieu ne peut pas être expliqué par l'homme. Mais Dieu s'est révélé aux hommes. Et c'est à la portée de notre compréhension. Mais pourquoi c'est à la portée de notre compréhension? D'autres exemples simples, car nous sommes bien capables de découvrir la personnalité d'un être, les traits de son caractère, ou la profondeur de ses sentiments, sans pourtant le voir ou jamais l'avoir vu. Combien de personnes peuvent témoigner qu'au moyen de la littérature, ils ont pu découvrir, ne serait-ce que partiellement, la personnalité d'un écrivain? Qu'au travers d'une œuvre cinématographique, on peut découvrir la personnalité, même partiellement, d'un cinéaste, la personnalité d'un artiste peintre, d'un sculpteur. Dieu a choisi de se révéler aux hommes par sa création, manifestation de sa puissance. Dieu a choisi de révéler aux hommes sa divinité par la manifestation de sa sagesse dans sa création. Quelqu'un a dit, la sagesse sans la puissance serait pathétique, comme un roseau brisé. Mais que la puissance sans la sagesse serait tout simplement effrayante. Mais en Dieu, une sagesse sans limite est unie à une puissance infinie. Et c'est sous ce double aspect que Dieu se révèle aux hommes dans sa création. Nul besoin de savoir lire de savoir démontrer, de savoir expliquer, comprendre même. Mais il nous est simplement utile et salutaire de contempler pour découvrir notre Dieu. Alors puissions-nous ce matin nous émerveiller toujours plus, pour les uns en tout cas, le découvrir enfin pour les autres, et qu'ensemble nous puissions lui rendre la gloire et l'honneur qui lui sont dus. Amen.